chapitre 4. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous mettre en colère, ou d'être en colère, d'être irrité? Est-ce que ces colères, ces irritations étaient bien fondées? Est-ce que c'était bien fondé? Qu'est-ce qui se cache chaque fois que nous sortons de nos gonds, comme on dit? Et donc on va voir le mal dont souffrait un croyant du passé qui s'appelait Jonas et la façon dont Dieu l'a guéri. Livre de Jonas, on arrive au dernier chapitre. Jonas avait au chapitre 1 envoyé son serviteur pour prêcher à Ninive, la puissante ville, la puissante dominante de l'époque, la Syrie, qui était tellement dangereuse pour les pays qui environnaient Jérusalem, qui les environnaient d'ailleurs, tous les pays. Et il ne veut pas y aller, Jonas, et il fuit à Tarsis. Dieu l'arrête, il envoie une tempête sur la Tarsis et l'Espagne, hein. Il arrête avec une tempête au beau milieu de la Méditerranée. Et là, les marins ne trouvent d'autre solution que de, sur la demande de Jonas lui-même, que de le mettre à la mer pour que la tempête s'arrête. Et Jonas est plongé dans l'eau. Et là, voilà qu'un grand poisson vient l'engloutir. Est-ce que c'est fini pour lui? Non. Dieu décide de le garder en vie dans le ventre du poisson. Et là, dans le ventre du poisson, Jonas se tourne vers Dieu, qu'il fuyait, il allait de l'autre côté. Et là, il est bien obligé de se tourner vers lui. Et il prie, et il affirme sa foi et sa confiance en lui, qu'il va être délivré de cette épreuve. Le salut dans l'Éternel, confesse-t-il. Le salut vient de l'Éternel, et le poisson rejette, vomit Jonas sur la plage. Et ensuite, une nouvelle fois, Dieu lui demande, va à Ninive, la grande ville, et cette fois-ci, Jonas y va, et il annonce le message, 40 jours et Ninive est détruite. 40 jours et Ninive est détruite. Et il commence une journée de marche à travers cette immense ville, et, incroyable, les Ninivites écoutent. Cet Israélite écoute ce qu'il dit. Dieu est à l'œuvre, il y a de la repentance et il y a un désir du plus petit au plus grand de changer de vie, et le roi lui-même donne cette ordonnance à la fin du chapitre 3. Que les hommes, les bêtes soient couverts de sang, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et à la fin du chapitre 3, donc Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. La mission de Jonas est couronnée de succès. Mais dans tout le parcours de Jonas, on voit qu'il y a des points des points d'ombre. On en a parlé tout au long de ce texte, et voilà ce que nous lisons au chapitre 4. Ceci déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Verset 4, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas sortit de la ville. Il s'assit à l'orient de la ville, et là il se fit une cabane, et il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui enlever son irritation ou son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et Jonas répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Jonas, ou contester la bonté du Dieu qui donne la vie. Jonas, ou contester la bonté du Dieu qui donne la vie. Alors, chapitre 4 nous révèle les dessous de toute cette histoire. Enfin, on comprend tout, ou presque, avec les 4 premiers versets. Jonas fut irrité, en colère. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la vie m'est préférable. La mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» La profondeur du cœur de Jonas est mise à jour. Pouf ! Ce n'était pas la peur de la mission qui a fait fuir Jonas. Ce n'était pas la peur des Ninivites. Ce n'était pas la peur d'être mal reçu, d'être mal compris, d'être pas entendu, d'être comme un cheveu sur la soupe. Ce n'était pas qu'il ne connaissait pas Dieu, qu'il ne connaissait pas son caractère, son désir, sa volonté. Ce n'était pas qu'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé. Non, il n'était pas d'accord avec Dieu. Lui, il voulait la destruction de Ninive. Et il conteste avec celui dont il a confessé qu'il avait la crainte, celui qui est le Dieu des cieux, le Créateur du ciel et de la terre, qui a fait la mer et la terre. Chapitre 1, verset 9. Il croit plus à la confession de celui qu'il avait faite dans le ventre du poisson quand il disait « Le salut vient de l'Éternel. » Qu'est-ce qui s'est passé? Quand notre cœur crie « c'est injuste », l'irritation, la colère viennent souvent de ça, qu'on considère que quelque chose est injuste. Non! Les Ninivites sont trop méchants, ils sont trop puissants, ils sont trop dangereux. Ce sont les ennemis d'Israël. Tôt ou tard, ils vont venir les envahir. Ce sont des idolâtres, ils n'ont pas droit à la miséricorde de Dieu. Leur grâce, leur faire grâce serait injuste. Car Dieu qui s'attache à de vaines idoles, éloigne de la miséricorde, a-t-il prié dans le banc du poisson, chapitre 2, verset 9. Et le voilà qui veut se mettre en travers du projet de Dieu. Lui faire obstacle à Dieu, à lui tout seul. Car, finalement, il sait mieux que Dieu ce qui doit être fait. C'est ce que je voulais prévenir, dit-il. Pauvre Jonas, quelle folie contester le Dieu qu'il connaît, qu'il aime et qu'il sert. Alors que va faire Dieu? Est-ce qu'il va secouer son prophète? Est-ce qu'il va lui mettre des claques? Comment va-t-il faire? Non, Dieu s'y prend d'une façon radicalement différente. Versets 4 à 6. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville. Et l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. La priorité de Dieu ici, soulager Jonas de son irritation, de sa colère. Dieu, si Jonas est en colère contre Dieu, Dieu n'est pas en colère contre Jonas. Il n'est pas en colère contre son serviteur. Enfin, il lui a parlé. Enfin, il lui a dit les choses clairement. Enfin, il a exprimé ce qui n'allait pas dans sa compréhension de la situation. Enfin, il a été transparent avec Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu aime. Il a horreur de l'esprit de pharisianisme, de faux semblants, de vernis, de surface. Voilà ce que Dieu aime plutôt que des prières de louanges décalées avec la réalité intérieure, ce qu'il vivait dans le ventre du poisson. Dieu n'est pas en colère contre Jonas. Jonas s'est fait une cabane. Alors visiblement, c'était une construction qui n'était pas très efficace contre le soleil, si on comprend la suite. Cela fait penser à Adam, vous savez, pour cacher sa nudité, il s'était fait des ceintures avec de la feuille. Jonas a besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu va faire un miracle pour lui. Il fait pousser, on dit un ricin, bon, on ne sait pas trop ce que c'était comme plante en fait. Mais en tout cas, il fait un miracle parce qu'il y a une belle plante qui pousse en une seule nuit. Et le lendemain, le soleil est là et la plante est là, magnifique, avec ses fleurs. On peut imaginer une très belle plante qui est là, qui donne de l'ombre, un très bel arbuste qui donne de l'ombre à Jonas. Une réponse, répondre à la colère et à l'irritation par la bienveillance, je notais. Comment soulager l'irritation? Répondre à la colère et à l'irritation par la bienveillance. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Proverbe chapitre 15, verset 1. Dans le monde séculier, on dit, voilà, qu'une personne n'est pas bien comme ça, elle est irritée, elle a besoin d'être rechargée. Faut recharger son réservoir à l'intérieur d'elle de bienveillance. Elle est à sec. C'est pour ça que ça fait ça. On peut noter que le contact avec la nature également est salutaire. Pour Jonas, c'était pas sa cabane qui l'a aidé, mais c'était cette plante. La création de Dieu est bienfaisante pour nous. On peut aussi faire de l'auto-médicamentation, c'est ce que fait Jonas. Il a bricolé une cabane, c'était peut-être son passe-temps favori. Quand on est irrité, on peut peut-être se calmer, on va chercher une tablette de chocolat dans le tiroir. Puis il y en a d'autres peut-être qui fument des joints comme ça, ou alors on regarde, ben voilà, le journal à la télé, ça calme. Hein. Ou on passe sur les réseaux sociaux, on va voir un petit peu à droite, à gauche, ce qui se passe, ou on fait bref, de l'automédicamentation. La bonne solution, bien sûr, c'est de chercher la présence de Dieu. Mais c'est impossible à Jonas à ce moment-là, parce que pour nous chrétiens, on recherche la présence de Dieu, on recherche la communion avec lui pour que l'irritation s'en aille. Mais pour Jonas, il est en conflit avec son patron, avec son boss. Pas de possibilité de ce niveau-là, à ce niveau-là. Peu importe après tout. Allons au ricin, Jonas est heureux, il est joyeux, mais est-il guéri pour autant? Est-il guéri pour autant? Versets 7 à 9. Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et Jonas répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Le remplissage du réservoir affectif de Jonas ne va durer qu'une journée. Dieu enlève le patch. Vous savez, des fois on a des patchs, les fumeurs ils ont des patchs. Pour compenser là, pour qu'ils oublient le désir du tabac, et Dieu enlève le patch et il regarde ce qui se passe. Et puis il en ajoute un peu, voilà, fait souffler de l'air chaud, le ricin sèche, l'air chaud est là qui souffle, et la source de la joie de Jonas sèche en même temps. Et l'irritation recommence de plus belle. Catastrophe. Jonas a besoin d'une guérison profonde. Il a besoin d'une guérison du cœur. Les ressources que propose le monde séculier en général ont, hélas, leurs limites. Ce ne sont que des patchs. Mais Dieu, lui, il n'a pas de limite. Il n'est pas limité. Comme les pauvres humains que nous sommes lorsqu'on essaye de s'aider les uns les autres. Dieu n'a pas de limite. Versets 10 à 11. L'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, et moi. J'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu veut guérir la source de l'irritation de Jonas. Et pour cela, vous avez vu, il lui pose une question. Il lui pose une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Cela fait... Mais Dieu lui connaît la réponse, bien sûr, cela fait penser à la façon dont il s'est adressé à Adam dans le jardin. Où es-tu? Où es-tu? Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé du fruit dont je ne t'ai défendu de manger? Dieu lui a répondu avec bonté à la folle contestation de son prophète. Il a fait pousser le ricin pour enlever la colère de Jonas. Enlever le mal même, littéralement. Dieu explique à Jonas que lui, Jonas, est complètement dépendant de sa bonté, de sa miséricorde pour avoir de la joie. Dépendant de Dieu. Jonas est dépendant de Dieu. Dieu est souverain de tout. Il donne la vie à tous. La vie, la respiration et toutes choses, nous dit le livre des Actes, chapitre 17, quand Paul prêche aux Athéniens. Il prêche un Dieu qui est généreux envers toute sa création. Et quelle chose nous pouvons dire face à cela, si ce n'est merci, ou si ce n'est comme l'a enseigné Jésus. Délivre-nous du mal. Jonas est un privilégié qui connaît le Dieu créateur de toutes choses. Alors que les 12 myriades de Ninivites, malgré leur brillante civilisation, ne comprennent rien aux choses spirituelles. Jonas sait que Tarsis est à gauche, que Ninive est à droite. Dieu lui dit, va à droite. Et Jonas, en pleine conscience, est parti à gauche. Dieu lui a fait grâce avec un gros poisson pour qu'il ne se noie pas, avec un ricin pour lui enlever son mal. Jonas, lui, le prophète de l'Éternel, est le seul dans cette histoire à contester. Les marins, la tempête, le poisson, les ninivites, le ricin, le ver, tout est en paix. Sauf Jonas, dans cette histoire, qui souffre intérieurement. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Mais Jonas s'est-il repenti? Jonas, à partir de ce moment-là, s'est-il repenti? Au-delà de Jonas, le peuple d'Israël. Au-delà de Jonas, le peuple d'Israël. Le jugement annoncé aux Ninivites est un miroir du jugement que Dieu allait annoncer quelque temps après à Israël. Jérémie est surnommé le prophète qui pleure. Et il avait un message de jugement pour Jérusalem. Je vais vous faire la lecture de Jérémie 17. Jérémie 18. Parole. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle à une nation, à un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies, vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain que nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il a offert de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans sa voie, quitter les anciens sentiers, poursuivre des sentiers et des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits, secouent la tête, pareil au vent d'Orient. Et je dis, je les disperse devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Jérémie s'exprime. Après, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel. Entends la voix de mes adversaires, dit Jérémie. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de leur parler en leur faveur, et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes soient frappés par l'épée dans le combat, qu'on entende le cri sortir de la maison quand le soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds, et toi, Éternel, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Et c'est ce qui va se passer. Le Jérusalem ne va pas faire comme les Ninivites. Ils ne vont pas se repentir. Il n'y aura pas de repentance de Jérusalem au 6e siècle avant Jésus-Christ. Jérusalem sera détruite. Un jugement annoncé des Ninivites, un miroir du jugement annoncé d'Israël. Jésus est le signe de Jonas. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 45, là on est au 1er siècle de notre ère. Matthieu chapitre 12, le signe de Jonas. Verset 38. Alors quelques-uns des scribes, des pharisiens, prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas ici. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus ici, il y a plus que Salomon. » Et il continue en disant « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. C'est la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. » On sait que les Israélites n'ont pas accepté la prédication de l'Évangile. Il n'y aura pas de repentance à Jérusalem après le 1er siècle. Mais Jonas, lui, s'est-il repenti? Jonas s'est-il repenti? Au-delà du peuple d'Israël, il y a nous, les chrétiens. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite. Ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. C'est ce qu'on marque dans les films quand il s'agit de faire des biographies. Qu'est-ce que la Jonasite? La Jonasite, ce mal qui touchait Jonas, c'est pas du racisme, c'est pas de l'orgueil. Comment le définir? Quelques symptômes. Se croire supérieur aux incroyants parce que l'on connaît Dieu. Être indifférent au tort qu'on peut faire à des incroyants. Penser que la grâce de Dieu est réservée à ceux qui nous ressemblent. Se mettre à la place de Dieu et faire le classement de ceux qui méritent la grâce de Dieu et de ceux qui ne la méritent pas. La Jonasite. La nouvelle alliance nous protège-t-elle de la Jonasite? Pas vraiment, non. Si on se souvient des difficultés de Pierre, vous savez, lorsqu'il devait aller annoncer l'évangile aux païens, les difficultés qu'il a eues et comment Dieu s'y est pris, en lui envoyant cette vision en Actes chapitre 10. Nous lisons ceci. Pierre vit le ciel ouvert un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendit et s'abaissait vers la terre. Et là se trouvaient toutes les quadrupèdes de la terre, des reptiles de la terre, des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Il avait faim à ce moment-là. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur. » Pierre dit, « Non, Seigneur. Non, Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. » Et la deuxième fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Trois fois. Pierre a fait cette réponse, « Non, Seigneur. » C'est une contradiction. On dit toujours « Oui, Seigneur, puisqu'il est Seigneur. » La Nouvelle Alliance ne nous protège pas de la jaunasite. Où est notre Ninive et où sont nos Ninivites? Bon, j'ai pensé à trois et même quatre candidats. Bon, on peut penser à Daesh, il y a quelques années, là. Ils étaient en même situation géographique, des gens qui embrigadaient, fanatisaient nos jeunes pour en faire d'eux des égorgeurs. Ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Ou l'islam et les arabes. La théorie du grand remplacement, l'islam, l'ennemi juré des chrétiens, ils ne changeront jamais. Ils n'ont pas droit à la grâce de Dieu. Ou la mondialisation, ce système qui propage tout ce qu'on n'aime pas, promotion de la liberté sexuelle, de l'avortement, de la théorie du genre, banalisation de la pornographie, toutes sortes de déviations banalisées, marchandisation de tout, même de la vie. Non, ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Pour moi, le meilleur candidat est le troisième Reich d'Hitler. Des gens brillamment civilisés et qui ont en même temps été des personnes capables des pires horreurs, les deux cohabitaient en eux. Où est votre Ninive, où sont vos Ninivites personnels? J'ai donné des exemples, mais chacun porte les siens. Des personnes qu'on considère non, cela. Pas question. Obéir à l'amour. Aimez vos ennemis, dit Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on est à Pâques, semaine de Pâques, et Jésus, après la résurrection, quand il s'est manifesté à ses disciples, à ses apôtres, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et on sait la façon dont Jésus a été reçu. Certains l'ont cru, beaucoup l'ont rejeté. La tâche est immense, c'est vrai. Nous rappeler qu'un jour nous aussi nous serons jugés. Un jour notre obéissance pratique sera évaluée. Voulons-nous en ce jour-là recevoir une couronne pour pouvoir la jeter plus tard aux pieds de Jésus? Ou bien voulons-nous prendre le risque d'être éloignés de lui? 2 Timothée 4, 8, Apocalypse 4, 10, 1 Jean 2, 28, si vous voulez aller voir. Alors dans l'Église, il faut que nous prenions l'évangélisation comme quelque chose de très sérieux, pas nous endormir. Voilà, c'est des choses concrètes qui sont devant nous, frères et sœurs. Un jour, nous aussi, nous serons jugés. Mais finalement, Jonas s'est-il repenti? Quelle réponse donner à cette question? Alors, il y en a beaucoup qui disent, mais oui, on peut bien supposer qu'il s'est repenti, et la parole de Dieu est tellement fine en laissant cette incertitude. Cette question qui se pose à nous tous et auquel nous devons donner une réponse. Bon, on constate que on a le livre de Jonas. Et il est impossible d'avoir le livre de Jonas sans la confession et le récit de Jonas lui-même qui a vécu ces événements. Et s'il se dépeint ainsi son péché, sa faillite, la façon dont il a manqué le but, la façon dont il a contesté avec Dieu, s'il dépeint tout cela, c'est qu'il s'est, lui, repenti. Et nous, est-ce que nous sommes prêts également à apporter l'évangile à ceux qui sont dans l'obscurité spirituelle, ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche? Et notre monde est rempli de personnes tout autour de nous. Mais dès qu'on aborde les questions spirituelles, ils sont à l'ouest complet. Ils ne savent rien. Ils sont ignorants. Mais à cela, Dieu, comme à nous, il leur donne le mouvement, la vie et l'être. Seigneur, tu es un si grand Dieu et tu nous connais si bien. Merci de la façon dont tu as pris soin de Jonas et que tu l'as conduit, que tu n'étais pas fâché contre lui, que tu as été patient, que tu as tout mis en œuvre pour arriver à l'amener à la raison. Merci pour la façon dont tu l'as, de ta pédagogie qui est douce, qui est persuasive, mais qui est sévère aussi, quand nous voulons endurcir notre cœur. Merci pour ton extraordinaire bonté qui nous dépasse, ta miséricorde qui nous est incompréhensible. Merci de nous conduire tous sur le chemin de la repentance, de nous aider en tant qu'Église à être là où nous devons être et à dire ce que nous devons dire au moment où nous devons le dire. Merci de nous parler et que nous puissions être transparents devant toi, pas nous réfugier derrière toute notre connaissance même de la Bible, toute notre suffisance, tout notre manque d'empathie et de compassion. Merci pour Jonas, pour ce que tu as fait pour lui, et que nous puissions comparaître devant toi plus tard sans avoir à rougir et avoir honte. Merci de cet homme, de son témoignage qui nous laisse. Dans le nom de Jésus, Amen.